Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde est pour le Japon ce soir. Nous allons à Okinawa qui proteste chaque jour devant la base militaire américaine. Vous êtes dangereux pour nous, disent les habitants. L'actualité en série 18h40, le in et le off des Américains à la COP23, c'est mieux que le théâtre. Entre ceux qui veulent rester dans les accords et ceux qui parlent charbon, vous verrez qu'on en vient presque aux mains. La revue de presse des correspondants de France Inter nous emmène ce soir à Washington et à Beyrouth. Et puis 18h55, l'édito de Christophe Ayad du journal Le Monde, de l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Iran en passant par le Liban. Mais tout de suite, c'est en Pologne que nous allons, où les slogans ce week-end avaient de quoi faire peur. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bienvenue.
Fabienne Saint-Ès, un jour dans le monde.
Pas y rester très longtemps, il suffit parfois d'entendre la manière dont les slogans sont portés pour comprendre ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça se passe donc ce week-end en Pologne, jour de l'indépendance polonaise. Vous les avez vus, sans doute ces images. Manifestation d'extrême droite organisée chaque année qui a pris là peut-être des proportions qui sont particulières. Question de nombre, question de slogans aussi, on va y venir tout de suite. Bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes politologue spécialiste des problèmes de l'Europe centrale et orientale et toute cette région du monde. On va se remettre tout ça en tête, on va se remettre le contexte surtout en tête en écoutant d'abord ce reportage signé Maya Chikanowska et puis on se retrouve juste après, écoutez-la.
Une fête qui devrait unir a rendu palpables les divisions en Pologne. 12 manifestations différentes ont défilé dans les rues de Varsovie. Pourtant, le président Andrzej Duda, en déposant samedi matin une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, a appelé à l'unité et au dialogue.
Le plus important, c'est l'attachement à notre patrie, à notre peuple. Cela devrait se placer au-dessus de tout, de nos divisions idéologiques, de nos différentes opinions politiques.
Andrzej Duda est allé jusqu'à inviter Donald Tusk, l'ancien Premier ministre libéral, aujourd'hui président du Conseil européen et bête noire des conservateurs du droit et de la justice. Une invitation qui est restée en travers de la gorge des notables du PiS. Elle symbolise la fracture de plus en plus visible entre le président et le parti qu'il a fait élire. Les appels à l'unité sont restés lettres mortes. Donald Tusk s'est fait siffler au moment où il déposait sa gerbe de fleurs. De plus, lors de la grande marche des nationalistes qui a eu lieu dans l'après-midi, les slogans étaient ouvertement anti-européens, anti-libéraux et islamophobes. Pas de Pologne islamiste, pas de Pologne laïque, mais une Pologne catholique, pouvait-on entendre. 60 000 personnes ont pris part à ce grand défilé nationaliste placé sous le signe de la violence. Les pétards et leur fumée rouge ont littéralement couvert le centre-ville. Une contre-manifestation appelée manifestation antifasciste avait lieu en même temps à l'autre bout de la ville pour protester contre le virage autoritaire de l'actuel gouvernement. Bref, Varsovie, pour sa fête d'indépendance, était ce samedi en état de siège. 6000 policiers ont été mobilisés pour éviter les échauffourées.
Maria Chimanowska et ses échauffourées. Quand on écoute ça, Jacques Rupnik, qu'est-ce qui se joue en ce moment en Pologne? C'est évidemment pas la première manifestation de ce type. La dernière, d'ailleurs, c'était en mai dernier, je crois, qu'il y avait des drapeaux et des slogans qui étaient à peu près semblables. Mais beaucoup de monde quand même cette fois, 60 000 personnes, ça dit des choses supplémentaires ou pas?
Oui, 60 000 selon la police, probablement beaucoup plus, on dit autour de 100 000. Et c'est vrai que c'est une manifestation qui commémore donc la fondation de l'État polonais en 1918, mais qui a été instaurée en quelque sorte depuis 2009 seulement. Donc c'est une tradition, mais une tradition relativement récente. Et c'était surtout...
pas toujours aussi violente, en fait. Tradition
non,
nationaliste,
mais
pas
avait...
toujours aussi violente.
Non, mais c'est-à-dire que c'est l'extrême droite qui est présente dans la manifestation, mais le thème est nationaliste au sens large. Et donc c'est là où est l'ambiguïté. Vous avez 100 000 personnes, ce sont pas tous des extrémistes, mais il y a une frange radicale extrémiste qu'on pourrait... dire néo-fasciste, qui a ouvertement affiché des thèmes xénophobes. Voilà.
C'est la question que j'allais vous poser. Il n'y avait pas 60 000 ou 100 000 néo-nazis dans les rues de Varsovie. On ne peut pas dire ça comme ça.
Oui, certainement pas. Non, non. Mais il y a cette frange. Et ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire, vous avez un thème national le jour où tout le monde commémore la fondation de l'État polonais. Et l'extrême droite essaye de récupérer l'événement et peser par là sur... disons, la mouvance nationale, nationale conservatrice, qui soutient le gouvernement actuel. C'est quand même l'électorat qui soutient le gouvernement actuel. Et donc ça, c'est la stratégie de l'extrême droite. Et il y a cette ambivalence du gouvernement en sens inverse, qui n'a pas organisé la manifestation.
Mais qui ne la critique pas non plus.
Qui ne la dénonce pas. C'est vrai que les propos du président de la République, qui est du parti majoritaire au pouvoir, ont été importants parce qu'il a souligné justement l'unité et qu'il n'y avait pas de place pour la xénophobie dans les moments d'unité nationale, etc. Donc, il se démarque ouvertement, lui, vis-à-vis de l'extrême droite, mais aussi vis-à-vis de certains membres du parti auquel il appartient.
Et justement, qu'on n'entend pas, il y a une certaine bienveillance quand même de la part du pouvoir, de la part de l'Église aussi. On n'entend pas tous ces gens-là après une manif de cette teneur-là. Comment se fait-il ?
On les entend peu, effectivement. Il y a eu quelques réserves du ministre des Affaires étrangères. On verra, mais je crois que la difficulté, c'est exprimer une réserve par rapport à une manifestation qui commémore la nation. Et il faut savoir que pour les Polonais, c'est très important. On reconstitue l'État polonais en 1918, un État qui avait disparu de la carte de l'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Hein, ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Hein, vous connaissez la formule d'Alfred Jarry, etc. Donc, un État, un grand État européen, disparaît de la carte et sa reconstitution est un événement majeur. Et de même, le retour, après la fin du bloc soviétique, de la Pologne souveraine et de la souveraineté de la Pologne, ça c'est un thème fort et un thème qui unit les Polonais au sens large. Et la manifestation essaye de capter en quelque sorte ce thème de fierté souveraine de la Pologne souveraine à ses propres fins.
Et ce qui permet de comprendre effectivement à quoi ressemble le nationalisme polonais, en quoi il a cette souche historique dont vous parlez. Mais les manifestations les plus récentes, celles où on a vu ressortir un certain nombre de slogans qui étaient des slogans gênants, ces manifestations ont été légitimées il y a quelques mois de ça par la crise des migrants par exemple. Est-ce que c'est toujours ça qui tient ces mouvements debout et qui fait qu'on peut voir ce qu'on a vu ce week-end? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont venues greffer?
Je pense que la crise des migrants a été un véritable catalyseur. Évidemment, on pourrait dire, mais il y en a très peu qui sont venus en Pologne.
Il y en a même zéro, j'ai presque envie de dire zéro.
En Europe centrale, il y en a très peu. Mais de même qu'on peut avoir de l'antisémitisme sans juifs en Pologne, il n'y a plus de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou quasiment pas, il y a aujourd'hui une très forte xénophobie et une très grande mobilisation contre l'accueil de migrants, même s'il n'y a pas de migrants en Pologne. Donc c'est aujourd'hui un phénomène européen. Nous sommes là pour défendre l'intégrité de la Pologne et nous défendons les valeurs de la civilisation européenne qui est attaquée, qui est menacée par cette invasion migratoire.
Est-ce que la Pologne, y compris par rapport à ses voisins, parce que des mouvements ultranationalistes, on va les appeler, il y en a eu d'autres évidemment chez les voisins, je pense aux Hongrois notamment, mais pas seulement, est-ce que la Pologne est le meilleur terreau pour ce genre de rassemblement par rapport précisément à certains de ses voisins comme les Hongrois, etc.
Ça, je ne sais pas, la compétition est rude, mais c'est vrai qu'il y avait dans la manifestation à Varsovie l'autre jour, il y avait des Hongrois, il y avait des Slovaques, il y avait d'autres, disons, d'autres mouvements qui étaient représentés. Et c'est vrai que la tendance générale dans la région, c'est que vous avez au pouvoir des partis de la droite nationaliste conservatrice, par exemple le Fidesz en Hongrie, le parti de Viktor Orban, mais vous avez une extrême droite. Sur sa droite, il y a le Jobbik, qui est un mouvement véritablement extrémiste. C'est un mouvement, oui, extrême droite, fascisante, si vous voulez. Et donc, vous avez en Slovaquie, vous avez un gouvernement, disons, qui est modéré, même pro-européen à certains égards, mais qui contient un parti nationaliste au gouvernement. Et dans l'opposition au Parlement, vous avez un parti d'extrême droite, fascisant, si vous voulez. Et on voit ça, ce qui est intéressant, et en Hongrie, et en Pologne, et en Slovaquie, c'est que ça attire les jeunes. C'est la jeune génération. C'est la génération post-89. Mmh. C'est pas des vieux nostalgiques de je ne sais quel combat. Non, c'est ceux qui n'ont eu droit à aucun combat, okay, qui sont arrivés après la bataille. Et ils arrivent dans un monde où ils voient que la transition, qui est une grande réussite économique pour la Pologne, une grande réussite aussi politique, c'est une modernisation spectaculaire de la Pologne, et il y a le sentiment que ce cycle post-89, qui était un cycle libéral, On construit des institutions démocratiques, on construit une économie de marché, on s'intègre dans l'Europe. Ça, c'était le programme post-89.
On a même cru qu'il y avait un modèle polonais à
oui.
ce moment-là.
C'est un grand succès, ouais. au point que le premier ministre polonais, Donald Tusk, est devenu le président mm-hmm. du Conseil européen. Mm-hmm. Donc ça, c'est symboliquement, mm-hmm. la Pologne parachève, transforme l'essai. Eh bien, à ce moment-là précis, il y a un retour de manivelle, le cycle post-89 est épuisé. Les libéraux n'ont plus grand-chose à dire. La bataille politique en Pologne, c'est entre centristes libéraux et la droite nationaliste. La gauche n'existe pas, comme en Hongrie. Et donc ça, c'est un paysage politique, disons, assez préoccupant. Plus de gauche, les libéraux contre les nationalistes. Et les nationalistes, en ce moment, ont eu le vent en poupe. Entre autres parce que la vague migratoire leur a offert un terrain favorable.
Mais je vous entends parler de tous ces mouvements effectivement autour, donc les Polonais, les Hongrois, les Slovaques. Après, à une autre échelle et différent, les Autrichiens, les groupes allemands qui rentrent aussi au Bundestag. Enfin, tout ça est un tout et en même temps, il y a tellement de différences, il y a tellement de différenciations que vous faites aussi qu'on a l'impression qu'il y a, au moins, c'est peut-être une bonne nouvelle, il n'y a pas une sorte d'internationaliste de l'extrême droite qui est en train de se former en Europe. En tout cas, est-ce que je me trompe ?
Oui, non, il n'y a pas d'internat. Oui, pas par définition. L'international des ultranationalistes, c'est difficile à organiser. Mais il y a partout, on observe une frange radicale qui est de plus en plus forte. Hein. Évidemment, nous comparons ça en Europe. Moi, je dirais que qu'une partie de la manifestation qui a eu lieu en Pologne, on pouvait le comparer à Charlottesville aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un élément xénophobe radical qui essaye d'utiliser des commémorations pour percer dans l'opinion publique.
Mais d'ailleurs, vous parlez de Charlottesville, pardon de vous interrompre. Richard Spencer était invité à cette manifestation, ne s'y est pas rendu finalement. C'est le leader de la suprématie blanche américaine, oui. qui finalement n'est pas venu. C'était compliqué de le faire entrer. Mais est-ce que, précisément, puisque vous allez sur ce terrain-là, est-ce que Donald Trump, qui en visite en Pologne, dit cette phrase était « Je félicite les Polonais pour leur défense de la civilisation occidentale ». Est-ce que ce genre de phrase vis-à-vis de ce genre de personnage, ça fait aussi monter cette mayonnaise-là et ça compte
Peut-être pas vis-à-vis des extrémistes, mais vis-à-vis de la mouvance, disons, nationale conservatrice. Celle qui soutient le pouvoir actuel. Et il faut savoir que le PiS, le parti au pouvoir aujourd'hui en Pologne, Droit et Justice, c'est un parti qui a non seulement gagné les élections avec 38% des voix, mais selon les sondages, il a encore 10% de plus aujourd'hui. Mmh. Et évidemment, et il est dans la mouvance nationale conservatrice, et bien sûr que les valeurs auxquelles ils sont attachés, la patrie, l'Église, la famille... Et il voit l'Europe comme la machine à dissoudre ses valeurs. L'Europe est libérale, permissive, décadente. Qu'est-ce que nous propose l'Europe ? Elle nous propose l'avortement, le mariage gay, le multiculturalisme. Eh bien, il s'oppose exactement à tous ces thèmes-là. Donc là, on n'est pas dans l'extrême droite radicale, ça c'est autre chose. On est dans cette mouvance nationale conservatrice qui mène une guerre culturelle contre le libéralisme, et elle voit dans l'Union européenne la principale force motrice de ce libéralisme. Et ça pose un problème pour l'Europe, parce qu'évidemment, la Pologne est un membre important de l'Union européenne, la Hongrie aussi, et donc nous avons là, au sein de l'Union européenne, non seulement des divergences politiques, mais j'allais dire des divergences sur les valeurs.
Bien sûr, et en délicatesse avec nous, on a bien vu le bras de fer qu'il y avait eu entre Emmanuel Macron et la Pologne au sujet des travailleurs détachés, Emmanuel Macron qui refuse de se rendre en Pologne.
Mais il ne faudrait surtout pas penser que c'est une aberration est-européenne seulement. Regardons autour de nous, nous avions le Front National au second tour en France, la France est très mal placée pour donner des leçons à qui que ce soit, donc c'est un phénomène transeuropéen. Simplement, en Europe centrale et orientale, ce phénomène est accentué. Vous prenez tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion, vous voyez la même chose. Est-ce que vous pensez que les migrants sont une menace ? La moitié des Européens disent oui. C'est 2/3 en Pologne, c'est 80% en Hongrie. Donc vous avez les mêmes tendances qu'ailleurs, accentuées. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai thème de débat transeuropéen. C'est pas une spécificité centre-européenne seulement.
Et qui vous donnera l'occasion de revenir nous voir dans Un jour dans le monde. Jacques Rupik, merci beaucoup de votre présence chez nous. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde nous emmène au Japon où tous les jours les habitants d'Okinawa protestent contre la présence des Américains. Vous verrez juste après que les Américains, tiens, pro et anti-accord de Paris s'affrontent. Ça se passe devant les caméras depuis la COP 23. La revue de presse des correspondants de France Inter, c'est juste après. Et puis 18h55, Christophe Ayad du journal Le Monde sur l'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est juste avant 19h. Donc merci de nous écouter. Voici Astrud Gilberto.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar. Do seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. De batunda, batela da badava, de batunda, batela da badava, de batunda.
Et ça fait du bien, tiens, Astrud Gilberto dans le studio de France Inter. Florence Paracuolo, c'est là.
Power
Hit Radio.
Florence Paracuolo, c'est les recoins de l'actualité internationale. Pour commencer, Florence, direction l'Allemagne avec un sujet de saison.
Eh ben oui, en pleine COP 23, c'est l'histoire d'un combat qui colle à l'actualité, l'histoire d'un Péruvien des Andes, parti en croisade contre le réchauffement climatique. Il s'appelle Saul Luciano Yuya, agriculteur et guide de haute montagne. Son village est menacé par la fonte des glaciers, de grands blocs s'en détachent qui forment des lagunes et qui risquent de l'engloutir. Et façon David contre Goliath, Saul Luciano Yuya a décidé d'attaquer le géant allemand de l'énergie RWE, 120 millions de clients en Europe et en Amérique du Nord, fournie en électricité grâce au charbon. RWE n'a pas de centrale au Pérou, mais c'est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que la plainte de ce paysan péruvien n'a pas été rejetée hier par le tribunal de Hamm en Allemagne. Elle n'est pas encore recevable, mais jugée concluante. Yuya demande le paiement d'une partie des travaux de sécurisation de son village par l'électricien allemand et des 6 000 euros qu'il a lui-même dépensés pour protéger sa maison contre la montée des eaux. Lucide sur ses chances de réussite, voilà ce qu'il a déclaré hier donc à la sortie du tribunal. J'aimerais pouvoir retourner dans ma montagne et dire aux gens que j'ai fait quelque chose pour eux. Alors évidemment, Yuya n'est pas tout seul, il est soutenu par l'ONG allemande German Watch, dont l'objectif est extrêmement ambitieux puisqu'il est de l'ordre de la justice climatique mondiale, concept qui obligerait le nord polluant à dédommager le sud qui subit les conséquences du réchauffement. On connaîtra assez vite la suite de cette histoire. Le tribunal de Hamm a jusqu'au 30 novembre pour se prononcer définitivement sur la recevabilité de cette plainte.
Bah tiens, Florence, on retournera d'ailleurs à la COP 23 avec Sandy Dauphin dans un instant, dans Un jour dans le monde, ce sera une autre forme de bataille. D'ailleurs, vous allez voir, entre les États-Unis et les États-Unis, très particulier. Allez, direction l'Irak maintenant, tout près de la ville de Mossoul.
Nous sommes à Talkif, à 18 km au nord de Mossoul, d'où nous arrivent ces images qui tranchent avec les horreurs de Daesh qui a occupé tout le secteur pendant 3 ans. Ce qu'on voit dans cette vidéo, qui cumule plus de 3 millions de vues depuis moins d'une semaine, ce sont des jeunes Irakiens sur le clocher de l'église chaldéenne de la ville, de jeunes volontaires musulmans. Ils sont en train de remettre une croix sur l'édifice. Ensuite, on les voit par dizaines nettoyer l'église endommagée et s'exprimer pour dire qu'il n'y a pas de différence entre chrétiens et musulmans. Nous invitons nos frères chrétiens à revenir dans leurs maisons et leurs églises. Mossoul est assez grand pour nous tous, dit l'un de ces jeunes gens. La vidéo a donc été massivement partagée sur les réseaux sociaux, mise en ligne par des activistes du Vivre Ensemble en Irak et en Syrie. Une vidéo likée et commentée positivement en arabe par plus de 20 000 internautes, Fabienne.
Allez, nous partons pour Moscou, Florence, à la rencontre d'un homme bien droit dans ses bottes et pourtant il pourrait pencher un peu, il a 95 ans.
Son nom est Blake, George Blake, ex-agent double qui a fêté ce week-end ses 95 ans, donc en Russie. Lui qui croit encore à l'idéal socialiste, c'est ce qu'il a expliqué à une télé publique russe. George Blake, ancien espion des services secrets britanniques, sa vie est absolument incroyable. Elle épouse l'histoire de la guerre froide. Tout commence pendant la guerre de Corée. Au début des années 50, Blake est fait prisonnier par les Nord-Coréens. Il sera le témoin de bombardements américains sur des populations civiles. Et c'est ça qui va le décider à proposer ses services aux Soviétiques. Comme agent double, il va fournir des centaines de noms à ses collègues de ses collègues de l'Ouest au KGB et révéler l'existence d'un tunnel secret à Berlin-Est utilisé pour espionner les Soviétiques. Il est ensuite dénoncé par un autre agent double, un Polonais, celui-là, condamné à Londres en 1961 à 42 ans de prison. Il en fait 5, puis il réussit à s'échapper avec une échelle en corde. Il passe la frontière avec la RDA, il arrive à Moscou en héros, passé à l'Est qu'il n'a plus jamais quitté. C'est peut-être la fin de ma vie, dit-il, mais ça n'est pas le chemin que l'humanité doit parcourir pour atteindre les idéaux d'une société socialiste.
Waouh, vous avez 2 heures.
Voilà.
Merci beaucoup Florence Paracuello, sous les radars pour Un jour dans le monde.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons au Japon. Alors précisément, nous sommes à Okinawa et on ne dirait pas comme ça, mais c'est une manifestation que vous êtes en train d'écouter. Nous sommes donc sur cette île qui est tout au sud de l'archipel japonais. C'est là que sont massés la majorité des 50 000 soldats américains qui sont présents au Japon. La position d'Okinawa est plus que stratégique. On est pile en face de la Chine et de la Corée du Nord, bien sûr, évidemment. Et il n'a échappé à personne que les tensions régionales en ce moment sont importantes. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir
Frédéric, ce qu'on entend dans cette manifestation, c'est qu'une partie des insulaires veulent le départ des Américains. Et ce qu'ils disent, c'est certainement non à une nouvelle base qui est en construction au même endroit, sur le port d'Eneko. C'est là qu'on manifeste, Frédéric, tous les jours.
Oui, tous les matins, depuis des années, des opposants, souvent très âgés, s'assoient devant le portail de la base américaine pour bloquer le passage des camions de construction. Et comme tous les jours, des policiers les soulèvent et les déplacent un par un pour dégager l'entrée. Des sympathisants viennent de tout le Japon épauler les opposants locaux, comme le moine bouddhiste Yuichi Kamoshita, originaire de Tokyo.
En fait, nous avons peur de la présence militaire américaine. Si nous avons des bases sur l'île, alors il y a de grandes chances pour que nous soyons attaqués par des forces étrangères. C'est d'ailleurs l'histoire de cette île. Nous avons une histoire très cruelle à cause de la présence de bases militaires.
La base américaine de Eneko sera un gigantesque porte-avions de béton avec 2 pistes construites sur la mer. Une véritable catastrophe écologique, mais cela importe peu aux yeux de Tokyo. Le Japon reste très dépendant pour sa défense du traité de protection signé avec les États-Unis et la base de Eneko est devenue un enjeu de sécurité nationale. Signe de la nervosité des autorités, Hiroji Yamashiro, qui est le président du mouvement pour la paix à Okinawa, a été arrêté et emprisonné pendant 5 mois au prétexte de faits mineurs. Ce militant pacifiste est opposé aux bases américaines et il s'inquiète de la montée des tensions avec la Corée du Nord.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que si un missile armé d'une ogive nucléaire s'abat sur la base de Kadena, toute notre île sera complètement détruite. On ne pourra plus jamais vivre ici. C'est une crainte des Okinawaïens et le gouvernement japonais doit comprendre cela. Ce qu'il faut faire au plus vite, c'est mettre fin à cette situation critique en cherchant le dialogue avec le Nord. Les gens d'ici souhaitent vraiment la paix.
Sauf que le problème, Frédéric, c'est que la position géographique d'Okinawa, on le disait tout à l'heure, est idéale pour les stratèges américains.
Tout à fait, Okinawa joue un rôle crucial dans leur stratégie d'endiguement de la Chine. L'île sera aussi une importante base arrière en cas de conflit avec la Corée du Nord. Fin septembre, les chasseurs F-15, qui avaient mené une mission d'intimidation le long des côtes nord-coréennes, avaient décollé d'Okinawa. On comprend donc les craintes des insulaires. Abe Takashi, journaliste au quotidien local Okinawa Times.
Okinawa sera l'une des premières cibles si quelque chose de mauvais arrive au Japon. Je pense donc qu'on peut dire que nous sommes plus en danger que les autres Japonais de l'archipel. Mais je veux aussi croire que personne ne sera assez idiot pour appuyer sur le bouton qui déclenchera une guerre nucléaire. C'est ce que j'espère en tout cas. Une erreur suffirait pour provoquer une telle guerre. Il y a donc une inquiétude.
20% du territoire d'Okinawa est occupé par des bases américaines et cette présence massive est source de nombreux maux, pollution, accidents d'avion et crimes sexuels. En mai 2016, le viol et le meurtre d'une japonaise de 20 ans par un employé de la base de Kadena a suscité la colère et de nombreuses manifestations. Suzuyo Takasato est la présidente de l'Action des femmes d'Okinawa contre les violences militaires.
À chaque fois qu'un viol a lieu, l'armée américaine et le gouvernement japonais répondent très rapidement. Par exemple, ils décrètent en urgence des mesures telles que des interdictions de sortie après 20 heures pour les soldats de moins de 20 ans. Mais ce type de mesure est toujours temporaire et après un mois, le couvre-feu est levé. Nous ne cessons de répéter, cesser ces mesures instantanées. Et sans effet, réduisez le nombre de soldats, réduisez leur nombre.
Le problème, c'est que la grande majorité des Japonais est favorable aux bases américaines, qui sont considérées comme une précieuse garantie de sécurité, mais aucune préfecture n'accepte de les accueillir. Les gens d'Okinawa ont donc l'impression de payer pour les autres et d'être des citoyens de seconde zone. Susumu Inamine est le maire de Nago, commune sur laquelle est construite la base de Henoko.
Et Okinawa no hito ga... À Okinawa, les opposants manifestent toujours pacifiquement, sans violence. C'est un point important. Mais les autorités de Tokyo répliquent en utilisant la force, la violence, pour accroître la pression sur nous. On peut dire qu'à Okinawa, la démocratie ne fonctionne pas.
Okinawa a longtemps été un royaume indépendant avant d'être annexé par le Japon à la fin du 19e siècle. L'île a été en 1945 le théâtre d'une bataille sanglante pendant laquelle l'armée japonaise a été accusée d'exactions contre les civils. La confrontation actuelle avec Tokyo au sujet des bases américaines ravive toutes ces blessures et elle alimente même des velléités autonomistes croissantes.
Frédéric Ojardias au Japon pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. Tiens, enfile la bonne.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le mardi, le pire et le meilleur des questions d'environnement. Et forcément, c'est du côté de Bonn qu'on regarde ensemble ce soir. Vous allez voir que l'ambiance sent parfois le soufre. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir Fabienne.
Sandy, Bonn et sa COP23 bien sûr qui se poursuit, les délégations sont bien là, on sait que les Américains sont bien là aussi puisqu'officiellement ils ne sont pas sortis des accords de Paris, en tout cas c'est un processus. Mais ce qui est drôle, ou enfin drôle, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, c'est que les Américains sont là, Sandy, deux Amériques, deux camps, les pros et les anti-COP, les good COP et les bad COP, le in et le off, et forcément ça ne se passe pas toujours très bien entre eux.
Oui, d'ailleurs, ici, chaque camp a son QG dans cet immense centre de congrès qui abrite la COP23. D'un côté, vous avez le pavillon officiel américain et puis de l'autre, très éloigné, un autre pavillon non officiel, celui-là, financé par des fonds privés, où se retrouvent les acteurs non étatiques, les associations, les entreprises, les élus locaux réunis au sein de l'alliance We're Still In, nous sommes toujours dedans, entendez, dans l'accord de Paris.
Donc, Sandy, premier clash entre les deux camps, c'était hier soir, quand la Maison-Blanche a organisé, il faut quand même être gonflé, une conférence sur le charbon propre, entre guillemets bien sûr, et le nucléaire.
Oui, c'était un moment surréaliste. C'était la seule conférence organisée par la Maison Blanche jusqu'ici, en marge de la COP23. Et elle était destinée donc à promouvoir le rôle des énergies fossiles et du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une provocation pour les pro-accords de Paris. Avant même le début de la conférence, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, est venu dans la salle, encore vide, au nom de l'Alliance pour le climat, formée par 15 États américains.
Si ces 15 États formaient une nation à part, ce serait comme la troisième plus grande puissance économique du monde. Donc vous pouvez rapporter ceci de Bonn. Pendant que Donald Trump essaye de vendre de la vieille technologie à un monde et à une science impitoyable, la troisième puissance mondiale va de l'avant avec des emplois dans l'énergie propre. C'est cela l'Alliance américaine pour le climat et je suis fier d'en être à sa tête.
Voilà pour le préambule. La conférence débute ensuite dans une salle archi-comble. L'assistant spécial de Donald Trump à la Maison Blanche, Dave Banks, répond à ses détracteurs.
Cette conférence est polémique seulement quand on fait l'autruche, quand on choisit d'ignorer la réalité du marché énergétique mondial. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une hausse de la demande en énergie de 30% d'ici 2040. Il y a actuellement 1600 centrales à charbon en cours de construction ou en projet dans 62 pays. Donc c'est une évidence, les énergies fossiles vont encore être utilisées. Il faut qu'elles soient le plus propres et efficaces possible.
Et 25 minutes plus tard, coup de théâtre dans la salle. Des dizaines de militants se lèvent et se mettent à chanter une version bien à eux de la chanson God Bless America, un vrai faux hymne au charbon. Et puis finalement, les manifestants se font expulser de la salle avec un dernier baroud d'honneur dans les couloirs de la COP23. Voilà, cette jeune militante dit « Ces hommes là-dedans ne représentent pas les États-Unis. C'est une honte qu'ils fassent la promotion du charbon et du pétrole alors que le monde doit avancer uni face au changement climatique. »
Eh ben dites donc, alors tout le monde est dans son rôle, hein, Sandy, on l'a bien compris, mais finalement, les Américains pro-accord de Paris peuvent pas à tout seuls sauver l'accord aux États-Unis, si ?
D'après un rapport publié samedi, la réponse est pour l'instant non, car lorsque l'on additionne les objectifs des 110 villes, 1300 entreprises et 20 États américains qui veulent, eux, appliquer l'accord de Paris, eh bien on arrive à la moitié de l'objectif fixé par Barack Obama, une réduction de 26 à 28% des émissions américaines de CO2 d'ici à 2025. Ce qui fait dire à l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, venir promouvoir le charbon à un sommet climat, c'est un peu comme venir défendre la cigarette à un congrès contre le cancer.
Allez, Sandy Dauphin, et la guerre des pros et des anti-américains dans le camp américain donc et de la COP23. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Allez, voici des rockers qui sont venus d'Alaska et comme son nom, leur nom ne l'indique pas, ils s'appellent Portugal The Man. La chanson s'appelle Feel It Still, Portugal The Man, venu donc d'Alaska. Allez comprendre.
France Inter, Un jour dans le monde.
Le rendez-vous hebdo des correspondants de France Inter et la revue de presse de leurs pays respectifs. Bonsoir Washington, bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, on va commencer avec le New York Magazine, un article en forme de mea culpa, un an après l'élection de Trump. Le chapeau de ce papier résume pas mal de choses et ça dit un an après la victoire de Trump. New York n'aime toujours pas Trump, mais c'est nous qui l'avons fait.
Oui, le journaliste Mark Harris résume ainsi la situation. On n'a pas voté pour lui, on continue quand on croise des étrangers à s'excuser pour le comportement de ce président, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est New York qui a fait Trump et l'a laissé grandir. Vous savez, Fabienne, dans la chanson New York, New York, il y a cette phrase qui dit « If you can make it here, you can make it anywhere ».
Ah ouais, fallait pas le laisser faire alors.
Et voilà, si tu peux réussir ici, tu peux réussir partout. Mark Harris, bien obligé de constater, avec son goût des médias, de l'argent, des buildings, Trump est New York. EST, il est une caricature, mais il est New York. C'est dans cette ville qu'il s'est construit. Et on ne l'a pas vu venir, remarque l'éditorialiste. Mais qui, à l'époque, aurait pu s'inquiéter, je cite, de l'avenir d'un propriétaire de casino obnubilé par la gloire et les caméras? Personne.
Allez, et puis dans le magazine Rolling Stone, cette fois, Grégory, vous avez lu un bel hommage à Fats Domino qui a disparu fin octobre.
Ouais, un très beau papier pour ceux qui l'auraient oublié, qui décrit bien l'importance que Fats Domino a eu dans l'histoire du rock'n'roll. Il en joue dès 1949, on est 5 ans avant le premier disque d'Elvis Presley. Il a influencé énormément de gens, à commencer par les Beatles. Quand on écoute Lady Madonna, par exemple, eh bien, c'est le style Fats Domino. Dans Rolling Stone, les plus grands lui rendent hommage. Little Richard, Jerry Lee Lewis, qui partageait avec Fats le goût des Rolls-Royce, des costumes et des bijoux. Dans ce papier, on apprend 2 ou 3 choses assez étonnantes. Fats Domino a été marié pendant plus de 60 ans à la même femme. En tournée, il avait toujours sur lui du riz et des haricots rouges pour se faire sa cuisine de Louisiane, du Bayou. Fats Domino est donc mort le 24 octobre dernier à l'âge de 89 ans. La Nouvelle-Orléans a fêté sa mort comme on le fait là-bas en musique et dans la rue avec des parades pendant plusieurs jours. Le papier de David Brown est vraiment excellent et à lire dans Rolling Stones Magazine.
Et quand même, tiens, puisqu'on parlait de la Nouvelle-Orléans, Grégory, écoutons ça juste une seconde. Voilà, j'ai envie de dire, Grégory, que ça nous change un peu de Blueberry Hill, ça s'appelle I'm Walking to New Orleans. Bien que, et pardon, je voudrais pas dire une hérésie, mais moi j'ai un peu l'impression que tout se ressemble un peu quand même chez Fats Domino.
Non, c'est vraiment une belle chanson et un bel hommage à sa ville de la Nouvelle-Orléans.
Allez, une dernière pour la route, Grégory, avec le magazine GQ qui a désigné son homme de l'année.
Oui, précisément citoyen de l'année, et c'est le footballeur Colin Kaepernick, vous savez, l'ancien quarterback des 49ers, celui par lequel le mouvement des footballeurs américains genoux à terre a débuté. Kaepernick, donc héros noir de l'Amérique de Trump, est récompensé avec ce titre de citoyen de l'année.
Grégory Philips en direct de Washington, merci beaucoup. Bonsoir Beyrouth, bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Fabienne.
Omar, chez vous, la presse forcément est suspendue au retour de Saad Hariri, premier ministre démissionnaire, qui aux dernières nouvelles est toujours à Riyad en Arabie Saoudite.
Oui, les quotidiens libanais consacrent une très large couverture à ce qu'il convient d'appeler l'affaire Hariri. Une affaire qui a plongé le Liban dans la tourmente et dans la peur d'une nouvelle guerre. À la une de quasiment tous les journaux, on découvre une photo historique, celle du patriarche maronite, le cardinal Béchar Rai, en visite depuis hier en Arabie Saoudite. Le chef de la principale communauté chrétienne du Liban est entré dans l'histoire en devenant le premier chef religieux chrétien a foulé le sol du royaume saoudien. Une visite qui intervient alors que les Libanais réclament le retour de leur premier ministre.
Alors des Libanais, Omar, qui sont passés de la sidération après la démission surprise d'Hariri le 4 décembre dernier à l'espoir peut-être, un peu.
Oui, selon le Daily Star, le patriarche maronite s'est montré depuis Riyad très optimiste, tout comme d'ailleurs l'ensemble des habitants du Liban, et ce, après l'interview télévisée donnée dimanche soir par Saad Hariri. C'était sa première prise de parole publique depuis sa démission, un soulagement que l'on doit aux propos mesurés et rassurants tenus lors de cet entretien, et surtout à sa volonté d'afficher et déclarer de rentrer à Beyrouth dans les tout prochains jours.
Et ce qu'on sent surtout, Omar, c'est la volonté de la presse libanaise de s'intéresser aux messages subliminaux apparemment envoyés par Hariri lors de cet entretien.
Oui, car ici, de nombreux journalistes pensent que le Premier ministre libanais n'est pas libre de ses mouvements et encore moins de ses paroles. Dans L'Orient le Jour, on peut lire que Saad Hariri a évoqué à plusieurs reprises sa famille. Sa famille également présente en Arabie Saoudite à ses côtés. Une façon de signifier que même s'il rentrait à Beyrouth, sa situation ne serait pas facile. Du coup, depuis cet entretien de dimanche soir, les milieux officiels libanais se sont mis à réclamer le retour de Saad Hariri, mais aussi de ses proches. Autre message subliminal. mondiale. Message important, hein, durant cette interview télévisée, le Premier ministre démissionnaire a mentionné plusieurs fois l'intervention militaire du Hezbollah libanais au Yémen, contre l'Arabie Saoudite donc, mais il n'a jamais fait référence à la guerre que mène la milice chiite en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad, ce qui fait penser au quotidien francophone que le véritable problème des autorités saoudiennes est l'enlisement de Riyad dans le conflit au Yémen. C'est donc là que résiderait la clé d'un apaisement avec les Saoudiens.
Merci beaucoup Omar Wahman, on y reviendra forcément sur cette histoire, on y revient même tout de suite. Tiens. Grâce à l'édito du journal Le Monde et à Christophe Ayad, chef du service international du journal. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Fabienne. Connaissez-vous Mohamed Ben Salman ?
Eh bien, j'ai appris à le connaître, justement, ce jeune prince héritier.
Oui, exactement. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, on le surnomme MBS comme Mohamed Ben Salman. Il n'a que 32 ans et c'est l'homme de tous les records. Il sera bientôt le plus jeune roi d'Arabie Saoudite. Il va effectuer la plus grosse introduction en bourse de l'histoire financière en privatisant 5% d'Aramco, la compagnie nationale du pétrole. Et le 4 novembre, il a battu un autre genre de record.
Alors quel genre de record ?
Il a fait deux coups d'État en un seul jour. Oui, c'est pas courant. En 24 heures, Mohamed Ben Salman a mis à bas le système politique de son pays, l'Arabie Saoudite, mais il a aussi renversé le premier ministre du Liban, Saad Hariri. Commençons par l'Arabie Saoudite.
Oui.
Oui, plus de 200 hommes d'affaires, ministres et même des princes de la famille royale ont été arrêtés dans la vaste purge anticorruption engagée par le prince et son père, le roi Salman. Ils sont aujourd'hui jetés en pâture à l'opinion et ils vont devoir rendre des comptes et surtout rendre l'argent. Au moins 100 milliards de dollars détournés durant les dernières décennies. Le problème, c'est que jusque-là, il n'y avait pas de corruption en Arabie Saoudite, puisque l'argent de l'État et celui de la famille régnante étaient le même. En fait, ce n'est pas une campagne anticorruption à laquelle on assiste, mais plutôt un coup de force du prince héritier MBS pour se dégager la voie vers le trône. Seulement, dans le système saoudien, tout est question d'équilibre entre les différents clans et les tribus. MBS s'est fait beaucoup d'ennemis d'un seul coup, notamment en destituant son cousin, le prince Moutaïb, qui est chef de la garde nationale, l'armée du régime. Bref, le prince héritier a fait un coup d'État qui aura sûrement des conséquences et reviendra peut-être le frapper comme un boomerang.
Alors et au Liban, Christophe, pourquoi il s'agit d'un coup d'État ?
Vous vous souvenez, Fabienne, de l'étrange démission annoncée par surprise par le premier ministre libanais depuis Riyad ? Eh bien, depuis plus d'une semaine, on continue à se demander si Saad Hariri est libre de ses mouvements et s'il a démissionné de son plein gré. Évidemment, on ne prête qu'aux riches et donc à Mohamed Ben Salman, encore lui. Il aurait poussé Saad Hariri dehors. Pourquoi ? Parce que Saad Hariri aurait été trop conciliant avec le Hezbollah et son parrain régional, l'Iran, grand rival du royaume saoudien. Là aussi, Mohamed Ben Salman a pris un pari très risqué. Et plus les jours passent, plus la pression grandit pour que Hariri rentre au pays. Il est encore trop tôt pour en être sûr, mais ce coup d'État-là semble bien parti pour faire pchit. Reste maintenant à attendre le retour de bâton, ce qui finit toujours par arriver au Proche-Orient.
Merci beaucoup Christophe Ayad, chef du service international du Monde dans Un jour dans le Monde, le 18-20 de France Inter. Continue avec le journal de Sébastien Paour. Le téléphone sonne aussi, spécial Europe, ce sera avec Stéphane Le Neuf ce soir.